Bonjour. C'est cool, hein? On est tous prêts à donner notre cœur à Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça? Vous n'êtes pas obligé de lever la main. Néanmoins, ce sont des paroles qui font drôlement réfléchir, hein? Drôlement réfléchir. Le dimanche passé, nous avons été invités à marcher selon l'Esprit. Vous vous rappelez, si vous étiez là. Et je vais un peu continuer dans ce sens ce matin, sachant que marcher dans la Bible, ça veut dire vivre. Vivre selon l'Esprit, vivre avec l'Esprit. Et je vais prendre un chapitre, une partie de chapitre de l'Épître aux Romains. C'est une épître qui est très simple, très accessible, ne vous en faites pas, qui est très profonde. C'est une lettre vraiment écrite par Paul aux chrétiens qui se réunissaient à Rome. Alors là, on ne sait pas exactement d'où venaient ces chrétiens, parce que voilà, ils n'avaient pas été, Rome n'avait pas encore été évangélisée, Paul n'était pas encore allé à Rome, Pierre n'y était pas allé non plus, semblait-il, d'autres apôtres encore moins. Alors, on pense que c'était des Juifs qui étaient montés à Jérusalem pour la Pentecôte, qui ont fait partie des 3000, puis des autres milliers qui ont été touchés lors de la Pentecôte, qui sont retournés à Rome et qui ont ouvert des églises. À un moment donné, les Juifs ont été chassés de Rome par l'empereur Claude. Ce n'était pas une persécution, mais c'était parce qu'il semait le trouble à cause d'un certain Christos. On pense que c'était Jésus et qu'il y avait peut-être des conflits entre les Juifs non-croyants et les Juifs croyants. Et après, ça a duré peu de temps, puisqu'on voit que dans les années, début des années 50, eh bien, les Juifs ont pu retourner à Rome. Et c'est dans les années 55-56 que Paul, qui était alors à Corinthe, a écrit cette lettre aux chrétiens de Rome. Alors cette lettre, elle a deux parties, les chapitres 1 à 11 qui sont les fondements théologiques, et puis après 12 à 16 qui sont les conséquences pratiques de ces fondements théologiques. Et dans cette lettre, Paul présente d'abord l'état de l'humanité, qu'elle soit d'origine juive ou non juive, païenne, comme quoi tous sont pécheurs et sont séparés de Dieu. Voilà, c'est le constat. C'est clair, c'est simple. Les non juifs, parce qu'ils pouvaient voir dans les beautés de la création qu'il y avait un être supérieur, un Dieu qui était là et qu'ils étaient invités à l'adorer, et non pas adorer les créatures, les créations, les étoiles, le soleil, la lune, etc., certains animaux aussi. Et puis les Juifs, parce qu'ils avaient reçu la loi et qu'ils s'étaient montrés incapables de la suivre. Donc voilà, nous sommes tous à la même enseigne, perdus, loin de Dieu. Constat triste, mais Dieu est intervenu. Dieu est intervenu en nous donnant son Fils, Jésus-Christ, et il nous a libérés de cet état de péché. Nous sommes une seule pour celles et ceux qui acceptent Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous sommes une seule plante avec lui et nous sommes morts. On le voit au travers du baptême, nous sommes morts et ressuscité avec Jésus. Voilà ce qu'on voit dans les premiers chapitres. Et puis, il y a le chapitre 7. Mais je vais d'abord aller au chapitre 8. Et je vous propose que nous lisions le chapitre 8 de cet épître aux Romains. Voilà, ça c'est beaucoup plus réjouissant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit, qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. On voit dans le chapitre précédent que c'est impossible de satisfaire la loi. C'est des versets très célèbres dans lesquels Paul s'exprime en « je » en disant « je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Il y a ce tiraillement entre le fait de vouloir plaire à Dieu. On voit qu'à un certain moment, il dit même qu'il fait de la parole de Dieu ses délices. Il fait de la parole de Dieu ses délices, mais il n'arrive pas à accomplir la loi. Il veut accomplir la loi, parce qu'il sait que c'est bon, mais il ne peut pas, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que le péché habite en lui. Il paraît que c'est un des chapitres de la Bible qui a été le plus commenté. Il y a différentes options. Est-ce que c'est qui est ce je ? Est-ce que c'est Paul ? Est-ce que c'est Paul non régénéré ? Est-ce que c'est Paul régénéré ? Enfin, etc. Peu importe. On voit qu'il y a cette incapacité d'accomplir la loi. Alors c'est pour ça que maintenant, eh bien, c'est beaucoup plus réjouissant au chapitre 8 parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. Pourquoi ? Parce que, eh bien, Dieu a condamné le péché dans la chair. Il a condamné le péché afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ça va ? C'est clair ? Voilà, c'est simple. Hein ? C'est simple. Il y a deux possibilités de vie. Soit on vit selon la chair, c'est-à-dire selon nos propres désirs, notre propre volonté, ce qui nous plaît, c'est le 1. Ou 2, on vit selon l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Et là, c'est cette manière-là de vivre qui plaît à Dieu et qui mène à la vie éternelle. La première partie, elle nous mène à la mort, parce qu'il y a opposition entre ce qui est de notre nature humaine, déchue, et la nature de Dieu. OK ? Si pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc ça signifie que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, eh bien, nous pouvons le faire parce que l'Esprit Saint est en nous. Sinon, ce n'est pas possible. D'une manière raisonnablement humaine, nous ne pouvons pas choisir Dieu. C'est pas possible. Parce que nous sommes ennemis de Dieu. Et donc, c'est par le Saint-Esprit qui agit en nous que nous pouvons nous tourner vers Dieu et le suivre. Et ce Saint-Esprit, nous l'a rappelé Carly dimanche passé, il n'est pas en train de faire des va-et-vient entre le ciel et nous et la terre, une salle de réunion ici, une salle de réunion ailleurs. Il vit en nous, il est en chacun de nous. Ce n'est pas un itinérant qui descend tout d'un coup, voilà. Mais il vit en chacun de nous. Il vit en chacun de nous, dès que nous l'avons. Alors après, ça n'exclut pas qu'il nous vivifie, qu'il nous rafraîchisse, qu'il travaille en nous, évidemment. Mais il est en chacun de nous. Il est en chaque personne qui reconnaît Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alors, ça signifie que, au verset 12, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous n'avons pas de dette, c'est ça que ça veut dire. Nous n'avons pas de dette envers la chair, envers notre propre nature pécheresse, pour continuer de vivre selon cette nature. Par contre, nous avons une dette envers le Saint-Esprit pour vivre selon sa volonté. Et nous avons maintenant un esprit d'adoption, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, alors nous sommes héritiers. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Voilà. Notre situation est celle d'enfants de Dieu. Et comment est-ce que nous savons que nous sommes enfants de Dieu? C'est parce que le Saint-Esprit l'atteste dans nos vies. Et nous sommes ainsi adoptés par Dieu et nous devenons héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et on a chanté qu'on remerciait Dieu pour son amour, qui était tellement grand que c'est difficile de le dire en mots. Hein. Et c'est vrai que c'est Dieu qui a pris l'initiative de venir à notre secours. C'est lui qui a pris l'initiative de nous donner son Fils pour que nous puissions être réconciliés avec lui, sauvés par lui. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas notre propre volonté, c'est Dieu qui est parti, qui nous a donné son Fils pour que nous puissions être libérés du péché. Voilà. Et nous sommes libérés du péché. Alors me direz-vous, bon, moi je pêche encore, enfin peut-être, je ne sais pas. Moi oui, voilà. Alors comment est-ce que ça se fait? Alors c'est vrai que Dieu aurait certainement pu arranger tout pour que, à partir du moment où on se convertit, on ne pêche plus. Hein. Il aurait certainement pu faire quelque chose comme ça. Mais voilà, nous sommes toujours dans nos corps de péché. Et ce qui fait que l'apôtre Jean nous le dit aussi dans sa première lettre, qu'on continue d'être pécheurs. Hein. Si on dit qu'on ne pêche pas, nous sommes menteurs. Et puis également qu'on n'est plus appelé à pécher. Nous ne sommes plus dans le royaume du péché, mais nous sommes dans le royaume de Dieu. Et c'est ça qui change tout. Et un jour, nous ressusciterons, nos corps ressusciteront, parce que nous ne sommes pas que des esprits. Et dans la cité céleste, nous ne serons pas des esprits. Nous aurons un corps renouvelé qui sera beau, qui va nous plaire, je suis sûr, et puis qui ne sera pas malade. On n'aura plus besoin d'aller se faire enlever un bout de vésicule ou autre chose. On sera en pleine forme continuellement. On vieillira, je ne sais pas si on vieillira et comment on vieillira, mais bien, ça sera encore renouvelé. Ça sera encore renouvelé et nous vivrons ainsi dans un corps ressuscité, renouvelé, dans lequel il n'y aura plus de péché. Ah ouais, pour les personnes qui sont attirées par les théories transhumanistes, c'est un peu compliqué d'imaginer un être humain dont on pluguerait le cerveau dans un ordinateur et qui continuerait de vivre comme ça parce qu'il lui manquerait un corps. Et un être humain sans corps n'est pas complet. Alors soyons... Vraiment, nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit. Comment est-ce que l'on marche selon l'Esprit ? C'est très simple. Tout est très simple ce matin. Tout est très simple. Où sont mes priorités dans ma vie ? Voilà. C'est quoi mes priorités dans ma vie ? Quand je suis seul avec moi-même, ou avec mon épouse, ou ma famille, mes enfants, voilà. Où se situent mes priorités ? Il n'y a pas besoin de répondre. Est-ce que mes priorités sont tournées vers mes propres désirs, ou bien... est-ce qu'elles sont tournées vers Dieu ? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vibrer pour les exploits de nos sportifs aux Jeux Olympiques, qu'on ne peut pas être passionné par la photographie, par exemple, qu'on ne peut pas avoir des intérêts... Voilà, ça ne veut pas dire qu'on est constamment en train d'être à genoux, de la corne sous les genoux, en prière, à rechercher la présence de Dieu. Mais néanmoins, c'est où ? C'est quoi mes priorités ? Si je dois laisser tomber quelque chose, qu'est-ce que c'est que je laisse tomber ? Nous sommes justifiés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. C'est un fait. Et puis après, nous sommes toujours sur cette terre pour un certain nombre d'années. Nous sommes appelés à avancer, à marcher. Et qu'est-ce qui caractérise notre marche ? Parce que ça, c'est de notre responsabilité. C'est de ma responsabilité. Le psaume 1, par exemple, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Où sont nos intérêts ? Où sont nos priorités, et ça, c'est de notre responsabilité. Dans tous les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, il n'est jamais parlé du diable ou de Satan. Ce sera qu'au chapitre 16 qu'on en parlera, dernier chapitre. Mais ça veut dire que c'est le péché, c'est notre nature. Le diable, il n'a pas besoin de se manifester constamment dans nos vies. Des fois, on est un peu orgueilleux, quoi. Le diable m'a attaqué. Il n'a pas besoin tellement tant que ça de nous attaquer personnellement. Notre nature humaine, elle est là, puis elle fait suffisamment de dégâts dans nos vies pour que ça puisse, pour cela, hein. Pas besoin de chercher quelqu'un d'autre. Nous, c'est de notre responsabilité de marcher selon l'Esprit. Et même si nous avons le Saint-Esprit, ce qui est donc un fait, eh bien, ça ne signifie pas que nous marchons selon le Saint-Esprit. Ça nous a été rappelé dimanche dernier aussi. C'est une volonté, c'est intentionnel, dirions-nous. Il y a une volonté de marcher selon l'Esprit et de mettre à mort aussi les œuvres de notre chair qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc il y a une action. C'est pas du contemplatif seulement. Waouh ! Il y a des moments de contemplation. Certes, on est dans les bras de Dieu, puis c'est bon. Mais ça ne s'arrête pas là. Après, il y a l'action, il y a notre volonté. Peut-être que certains se disent, comment est-ce que je sais que je marche par l'esprit ou pas ? C'est ça ? C'est une bonne question, hein ? Finalement, je suis chrétien. C'est simple, exactement. C'est simple. Il y a une certaine congruence, c'est-à-dire est-ce que la manière avec laquelle je vis correspond à ce que je dis ? Pourtant que je sois croyant, bien sûr. Autrement, si je ne suis pas croyant, ben, il y aura une congruence, ça c'est sûr, ça va correspondre. Maintenant, si je dis que je suis croyant, est-ce que ma manière de vivre correspond à ce que je dis ? Ou bien est-ce qu'il y a un fossé entre les deux ? Et puis, dans Galates 5, il y a toute une liste de choses qui viennent de la chair ou de l'homme livré à lui-même. Alors là, on peut regarder aussi dans cette liste où on en est. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Voilà, ça, ce sont les actions de notre propre chair. Alors voilà, on peut regarder comment on se situe par rapport à ça. Est-ce que je fais des orgies tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs ? Est-ce que je sème la discorde autour de moi ? Est-ce que je suis envieux de mon voisin au point de le détester ? Est-ce que je me mets rapidement en colère ? Est-ce que j'adore certaines choses ? Alors, j'ai pas une petite idole chez moi, mais j'ai la télévision. Et je la regarde. Waouh ! Et ce soir, il y a un match incroyable. Donc, je ne viendrai pas à la réunion de prière de 19h30. Ben voilà, il y a, et puis, etc. Et puis, encore un autre signe que l'on peut voir, c'est toujours dans les versets qui suivent, ces versets 19 et suivants de Galates 5, c'est est-ce que on peut discerner dans ma vie le fruit de l'esprit ? Parce que l'Esprit Saint en nous fait pousser un fruit qui a 9 facettes que l'on connaît bien, qui est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la patience, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Voilà, moi je me surprends parfois à me dire, ben dis donc, Daniel, je me parle à moi-même. Là, en termes de patience, c'est pas terrible, qu'est-ce qui se passe? Et puis, en regardant comme ça, en s'examinant soi-même, ben, on se dit, mais tiens, où en suis-je ces temps dans ma relation avec Dieu? Est-ce que je suis toujours aussi proche de Dieu ou bien est-ce que je me suis un peu éloigné? C'est un bon baromètre. C'est un bon baromètre. Puis je pense qu'on a chacun des baromètres comme ça. Alors, c'est pas grave. Je me suis éloigné de Dieu peut-être pendant ces derniers jours, mais il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc, si je me confesse, si je reviens au Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être, eh bien, à ce moment-là, eh bien, il est fidèle et juste pour me pardonner. C'est de reconnaître, c'est de faire le point de temps en temps sur nos vies, sur où on en est dans notre marche avec le Saint-Esprit. Je crois que c'est vraiment important pour chacune et chacun d'entre nous d'être attentif à ça, de ne pas attendre que le Saint-Esprit nous transforme. Voilà, c'est mieux. Comme ça. D'un coup de baguette magique. Et puis que ça soit bon pour toute notre vie. Il le fait. Il le fait. Il peut le faire. Néanmoins, après, ben voilà, on est sur le chemin, on est sur la route, on avance et on doit avancer. Et là, on doit prendre nos responsabilités avec ça. Alors vraiment qu'on puisse apprendre toujours plus à vivre selon l'Esprit, à ne pas vivre selon notre propre volonté, selon notre propre chair, ni selon des propres lois qu'on se mettrait nous-mêmes. Parce qu'on est fort pour se mettre des interdictions nous-mêmes, se mettre des lois à nous-mêmes. Hein ? Il faut que je lise tous les jours, il faut que je lise la parole de Dieu tous les jours au moins une demi-heure. Que je lise la Bible en 6 mois entièrement dans toute de la Genèse à l'Apocalypse et de l'Apocalypse à la Genèse. Que je ne fume pas, que je ne boive pas, que j'arrête de regarder des films policiers, que je jeûne au moins une fois par semaine, que j'évite les bars, que... Enfin voilà, on se met plein de lois. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais si ce sont des lois qu'on se met, c'est mauvais, parce qu'on n'arrivera pas à les atteindre si on le fait par nous-mêmes. Par contre, c'est de se laisser conduire vraiment par le Saint-Esprit, de se laisser afin de pouvoir aller de l'avant ensemble, en tant que personne, dans nos familles, si on a des familles, au travers également et dans l'Église. Et qu'on ne se trompe non plus pas de combat en tant que croyant. On arrive dans des temps qui sont compliqués, tendus à tout point de vue, et aussi bien dans la chrétienté. Hein, on le voit en particulier aux États-Unis, mais ça peut très bien venir en Europe où il y a des tensions. Et là, on est dans des faux combats. Si on se bat pour des idées, si on se bat contre d'autres idées, c'est faux. Ce n'est pas à nous de nous battre contre des idées qui ne nous plaisent pas. Les premiers chrétiens, ils vivaient dans un monde qui était plein d'idées qui étaient contraires aux chrétiens, hein, complètement. Mais vraiment qu'on puisse se laisser conduire par le Saint-Esprit, qu'on puisse se demander régulièrement, mais j'en suis où dans ma vie? Sérieusement. Hein? Sérieusement. Tenez-vous, Daniel. Est-ce que vraiment tu donnes tout ton cœur à Jésus ? Waouh ! Parfois, non. Vous voulez que je descende la chair ? Mais vraiment que on puisse vivre de la sorte en ayant cette assurance qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Demeurer en Jésus-Christ, c'est notre responsabilité. À partir du moment où lui a payé le prix pour nous, où on accepte qu'il a payé ce prix, après c'est ma responsabilité de demeurer en lui. Il va nous laisser libres. Mais vraiment qu'on puisse ainsi avoir cette certitude et puis revenir au Seigneur. Et pour terminer, j'aimerais lire les derniers versets de ce chapitre 8 qu'on aime bien. Que je retrouve ma Bible. Voilà, Paul, dans la suite de ce chapitre 8, parle des difficultés qu'il y a à vivre en tant que croyant sur cette terre. Mais à la fin, il termine au verset 37. Dans toutes ces choses, donc dans toutes ces difficultés que nous pouvons rencontrer, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que tu as pris l'initiative de donner ton Fils pour mourir à notre place. Tu as donné ton propre Fils pour nous. Et maintenant, eh bien, tu nous appelles encore et toujours à te suivre, à marcher selon ton esprit qui est en nous. Apprends-nous à ne pas nous laisser distraire par d'autres voies, à ne pas nous laisser détourner par ce que nous pouvons voir, mais à te suivre chaque jour. C'est toi qui es notre guide, qui nous conduit. Alors merci, mon Dieu, pour cet amour. Merci parce que nous avons cette certitude qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en toi et que rien ne pourra nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Alors merci pour cet amour. Merci pour cette promesse aussi qu'un jour, eh bien, nous ressusciterons dans des corps renouvelés, régénérés, eh bien, Seigneur, que nous pourrons passer cette éternité avec toi. Que ton nom puisse être élevé dans nos vies, aux uns et aux autres. Amen.